VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 29 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, abstention massive aux législatives d'hier et coupure totale de l'Internet.
En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou a appelé hier à la démission du président Félix Tshisekedi, dont il conteste toujours la victoire.
Au Mali, visite du premier ministre Boubou Cissé à Guirée, localité victime d'une attaque meurtrière le 21 avril dernier.
Au Soudan, percé dans la crise entre l'armée et les contestataires, avec la prochaine participation des civils au pouvoir.
En Espagne, victoire du premier ministre socialiste Pedro Sanchez aux législatives d'hier, mais il n'a pas obtenu la majorité absolue.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les Béninois ont voté hier pour élire leurs députés lors d'un scrutin où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Beaucoup d'électeurs sont restés chez eux et Internet était coupé. Michel Joseph.
La Radio Nationale a appelé en vain les 5 millions d'électeurs béninois à accomplir leur devoir de citoyens et à se rendre aux urnes pour élire leurs 83 députés. L'opposition privée de candidats à la suite d'une révision de la loi électorale avait appelé ses partisans à ne pas aller voter en signe de protestation. Nombre de Béninois, mécontents de la situation, ne sont pas descendus dans les rues pour manifester, mais ont signifié leur désaccord à leur manière en boudant les urnes en masse. Les rues étaient quasiment vides à travers le pays, et notamment à Cotonou, la capitale économique où les commerces et marchés sont restés fermés toute la journée par crainte de chauffourée. Le scrutin est aussi marqué par le blocage des réseaux sociaux pour la première fois de son histoire. Le Parlement a approuvé l'an dernier la mise en place d'un nouveau code électoral pour simplifier le paysage politique et empêcher la prolifération des partis. Toutefois, même les principaux mouvements de l'opposition ne sont pas parvenus à remplir les conditions imposées par la Sénat et n'ont pu présenter leur liste. Beaucoup accusent le président Patrice Talon de dérive autoritaire dans ce pays souvent considéré comme un modèle de démocratie en Afrique.
Au Mali, le premier ministre Boubou Cissé a fait sa première visite de terrain à Guirée. Cette localité avait été attaquée le 21 avril dernier par des hommes armés qui ont causé la mort de 11 soldats maliens et fait des blessés. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est Guirée, dans le cercle de Nara, région de Kouloukoro, qui a accueilli Boubou Cissé pour sa première sortie à l'intérieur du pays.
J'étais effectivement venu rendre hommage aux valeureux soldats qui sont tombés ici à Guirée, dans la défense de la patrie, me recueillir sur leur tombe. Et deuxièmement, rassurer nos hommes de troupes que les efforts du gouvernement vont continuer pour renforcer leur capacité, non seulement offensive, mais également défensive.
Général Keba Sangaré, chef d'état-major de l'armée de terre.
On a réalisé les dispositifs afin de pouvoir mener une reconnaissance offensive en direction de Guirée. Pratiquement, ils sont tous là et ça prouve à juste titre que ces hommes sont prêts à aller encore au
À Guirée, l'école est fermée à cause de l'insécurité. Les centres de santé ne fonctionnent pas. Docteur Boubou Cissé, Premier ministre.
Les services de base doivent le plus rapidement retourner sur place pour dispenser des prestations qui aujourd'hui sont des prestations basiques que réclame la population et c'est légitime. Et donc toutes ces préoccupations ont été enregistrées et nous allons faire en sorte d'y répondre le plus rapidement possible.
Boubou Cissé a rendu visite aux blessés de l'attaque de Guirée qui sont au niveau de l'hôpital du Mali, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, l'opposant Martin Fayoulou a demandé au président Félix Tshisekedi de démissionner. M. Fayoulou, qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle du 30 décembre dernier, l'a dit dimanche à Kinshasa lors d'un meeting devant plusieurs milliers de personnes venues l'écouter après un mois et demi de tournée à l'étranger. Il a annoncé par ailleurs des actions de grande envergure dans le pays à partir du mois prochain qui lui permettront, je cite, de récupérer sa victoire. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires. À Kinshasa.
Nous sommes venus demander à Félix Tshisekedi de démissionner, a dit d'un ton ferme Martin Fayoulou devant plusieurs milliers de militants de la coalition Lamouka qui l'ont accompagné de l'aéroport international de Ndjili à la place Sainte-Thérèse pour la tenue de son meeting. L'opposant, qui se considère toujours vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier, accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir dépensé en 3 mois le budget annuel de la présidence de la République et d'avoir vidé les réserves de la Banque centrale du Congo. Concernant l'accord qui lie Tshisekedi à Kabila, Martin Fayoulou affirme que le président de la République a vendu le pays à Joseph Kabila. Félix Tshisekedi nous a fait la honte. Il a vendu le pays à Kabila. Ce Kabila qui est venu pour déstabiliser la République démocratique du Congo, a-t-il souligné, exigeant de ce fait la publication par Félix Tshisekedi de l'accord FCC Cash. Martin Fayoulou a par ailleurs annoncé pour le mois de mai prochain des grandes actions de terrain au pays comme à l'extérieur pour contraindre Félix Tshisekedi à la démission. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Soudan, les dirigeants de la contestation et l'armée sont finalement tombés d'accord sur une autorité conjointe comprenant des civils et des militaires. Il s'agit d'une percée majeure dans la crise qui a suivi la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Abdourahmane Dia.
Ahmed Al-Rabia, un des représentants du mouvement de la contestation, a annoncé un accord sur un conseil conjoint entre les civils et l'armée. Nous menons actuellement des consultations pour décider du pourcentage de civils et de militaires dans le conseil conjoint, a-t-il dit. Mais selon des militants, le conseil sera formé de 15 membres, 8 civils et 7 généraux. Ce conseil, qui remplacera le conseil militaire, constituera l'autorité suprême du pays et sera chargé de former un nouveau gouvernement civil de transition pour gérer les affaires courantes et ouvrir la voie aux premières élections post-Béchir. Hier, les chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, qui regroupe les partis politiques et les groupes de la société civile à la tête de la contestation, se sont réunis pour examiner les résultats des négociations. Mais les manifestants, même s'ils se disent satisfaits des résultats, ne sont pas prêts de décamper. Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont annoncé leur intention de déposer 250 millions de dollars à la Banque centrale du Soudan pour améliorer les liquidités et renforcer la position financière de leurs alliés soudanais.
En Libye, des raids aériens sur Tripoli menés samedi soir par l'ANL du maréchal Khalifa Haftar ont fait 4 morts et 20 blessés. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités du gouvernement d'Union nationale, le GNA. Mais selon un porte-parole de l'ANL, les bombardements ont touché une caserne et des dépôts d'armes. Le maréchal Haftar a lancé le 4 avril dernier une offensive militaire pour conquérir la capitale libyenne.
Des dizaines de milliers de personnes sont menacées dans l'extrême nord du Mozambique par la montée des eaux consécutives au passage du cyclone Kenneth. Le bilan est d'au moins 5 morts et d'importants dégâts sont signalés. De nouveau, Abdourahmane Dia.
Les fortes pluies qui continuent à se déverser sur toute la région du Cabo Delgado ont provoqué les premières inondations dans plusieurs quartiers de la capitale provinciale Pemba et dans les régions voisines. De nombreux champs de la lisière de la ville ont été envahis par les eaux, ainsi que la principale route qui mène de Pemba jusqu'à la frontière tanzanienne au nord. Il pleut énormément depuis dimanche matin. On s'attend à des inondations violentes dans Pemba et autour, a déclaré une porte-parole du Programme alimentaire mondial, Deborah Nguyen. On est très inquiet car les prévisions anticipent de fortes pluies pendant les 4 jours qui viennent. On estime que le niveau des précipitations sera 2 fois supérieur à celui qui a accompagné le cyclone Idai quand il a frappé Beira le mois dernier, a-t-elle indiqué. Idai a touché Beira, la deuxième ville du Mozambique, puis l'est du Zimbabwe, faisant 1 millier de morts et des centaines de milliers de sans-abri. À 1 millier de kilomètres plus au nord, c'est désormais autour de Pemba et de ses 400 000 habitants d'être menacés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le rabbin Israel Goldstein a raconté hier avec beaucoup d'émotion et une peine évidente comment a eu lieu l'attaque contre sa synagogue à San Diego en Californie, attaque qui a coûté la vie à une femme et l'a blessée ainsi que 2 autres personnes. Je me retourne et j'ai une vision que indescriptible, a-t-il dit, décrivant comment un jeune homme tenait un fusil pointé directement vers lui. Il portait des lunettes de soleil, je ne voyais pas ses yeux, je ne voyais pas son âme. Le rabbin, qui a remercié le président Donald Trump de lui avoir téléphoné, a appelé à dépasser la haine.
Et en Espagne, le premier ministre socialiste Pedro Sánchez a remporté les élections législatives de dimanche, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la Chambre. Après le dépouillement des votes, le Parti socialiste a recueilli près de 29% des voix et 123 députés, nettement plus que les 85 remportés aux législatives de 2016. Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir en juin dernier en renversant le conservateur Mariano Rajoy dans une motion de censure, sera donc obligé de bâtir une coalition difficile pour continuer à gouverner.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
En Guinée, le chemin de fer pour transporter la bauxite du gisement de Santou au port de Dapilon sera mis en service en juin 2021, a annoncé le consortium international SMB Winning, responsable de ce projet de plusieurs milliards de dollars. Des sociétés chinoises ont été choisies pour construire ce chemin de fer de 135 km, selon un communiqué du consortium annonçant la signature des contrats d'ingénierie et de construction ferroviaire. L'interconnectivité aérienne des pays africains pourrait rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes au continent. C'est ce qu'ont annoncé cette semaine des experts du secteur aérien en marge du forum Aviadev qui se déroule en Afrique du Sud depuis le 24 avril.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Cameroun est champion d'Afrique des moins de 17 ans.
Oui, opposé à la Guinée hier en finale, les Lionceaux l'ont emporté au tir au but avec 5 tirs réussis contre 3. Après les 90 minutes, les deux équipes n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul de 0 à 0. Il a donc fallu l'épreuve fatidique des tirs au but pour les départager. Et cette fois, le Sili National Cadet n'a pas eu de chance comme ce fut le cas contre le Nigeria. Le Cameroun, la Guinée, l'Angola et le Nigeria représentent l'Afrique à la Coupe du Monde de la catégorie qui se jouera au Brésil en octobre prochain.
Le CS Sfaxien et le Zamalek vainqueur des matchs allés en demi-finale de la Coupe CAF.
Oui, poussé par un énorme public au stade Taïeb Mehri, la formation tunisienne de Sfax a gagné son match à domicile face aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane 2-0. Le club sportif sfaxien se déplacera un peu plus sereinement au Maroc pour le match retour dimanche prochain. Par contre, il y a eu moins de buts dans l'autre demi-finale aller entre les Égyptiens du Zamalek SC et l'Étoile sportive du Sahel. Les Tunisiens se sont imposés 1-0.
En RD Congo, le secrétaire général de la Fédération de football, Inyangi Bokinda, a été suspendu.
Ainsi en a décidé le comité exécutif de la FECOFOOT après la disqualification par la CAF des Léopards Espoirs des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans à cause de l'inéligibilité du défenseur congolais Arsène Zola. Écoutons le président de la Fédération congolaise de football qui annonce également de nouvelles mesures prises. Constant Omari.
Nous avons suspendu le secrétaire général pour besoin d'enquête parce que ça relève purement et simplement de ce travail administratif. Au-delà de la suspension du secrétaire général, nous avons créé deux secrétariats généraux adjoints, dont un qui sera chargé uniquement du suivi des compétitions. Parallèlement, votre confrère Patrice Manguinda, lui sera chargé de la recherche et développement pour pouvoir informatiser tous les services liés à la licence.
Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, au micro de Thierry Kambundi, notre correspondant à Kinshasa. Et pour compléter cette affaire, souvenez-vous, Arsène Zola, joueur du tout-puissant Mazembe, avait fait l'objet d'une plainte de la Fédération royale marocaine de football. À l'issue de leur double confrontation, il est né le 23 février 1996, alors que le règlement de la compétition exige que les joueurs soient nés après le 1er janvier 1997.
En Europe, Van Dijk a été désigné joueur de l'année par ses pairs.
Oui, le défenseur néerlandais de Liverpool qui succède au palmarès à son coéquipier Mohamed Salah a été préféré par les joueurs de Premier League à l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, sacré jeune joueur de l'année. Virgil van Dijk, 27 ans, a rejoint Liverpool en janvier 2018 contre 87 millions d'euros en provenance de Southampton. Pour rappel, le Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, était le seul joueur africain en lice pour le titre de meilleur joueur de l'année du championnat anglais.
Ici aux États-Unis, en NBA, les premiers matchs des demi-finales des playoffs ont commencé hier.
Oui, Golden State est venu à bout de Houston 104-100. En ouverture de leur duel très attendu de la conférence Ouest, les doubles champions en titre mènent 1-0 avant le match numéro 2 demain. De nouveau dans leur salle à l'Est, le choc entre Milwaukee et Boston a débuté par une surprise de taille avec la nette défaite à domicile des Bucks 112-90 surclassée par les Celtics.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le meeting de l'opposant congolais Martin Fayulu, le meeting qu'il a tenu dimanche à Kinshasa. De retour en RDC, après une tournée 2 mois et demi à l'étranger, le candidat commun de l'opposition à la dernière présidentielle s'en est pris à la gestion du président Félix Tshisekedi, dont il a demandé la démission. Martin Fayulu, qui est aussi revenu sur la mutation de la coalition Lamuka en plateforme politique, a par ailleurs annoncé des actions de contestation pacifique qu'il compte mener à partir du mois prochain pour contraindre M. Tshisekedi à la démission. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est au rythme de sa chanson de campagne que Martin Fayulu, accompagné de plusieurs milliers de militants de la coalition Lamuka, est arrivé à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili pour tenir son tant attendu meeting après 1 mois et demi de tournée euro-américaine qui a abouti le week-end dernier à la transformation de la coalition Lamuka en plateforme politique. D'entrée de jeu, l'opposant s'est attaqué au président Félix Tshisekedi, lui demandant de démissionner.
Commandant du peuple,
je suis de retour. Le commandant du peuple est de retour. Nous sommes d'accord pour dire à Félix Tshisekedi de démissionner, qu'il quitte les pouvoirs. Où avez-vous vu 100 jours moins 6 sans premier ministre, pas de gouvernement, on n'a rien. Je vous ai toujours dit que vous êtes plus fort que les armes. Est-ce que nos frères du Soudan ont pris les armes? Est-ce que ceux d'Algérie ont pris les armes?
Le candidat commun de l'opposition à la dernière présidentielle qui continue à revendiquer sa victoire estime que la RDC n'ira pas de l'avant en fondant son progrès sur la tricherie. Culpabilisant ainsi Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, autorité morale du FCC et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante, Martin Fayulu demande à Félix Tshisekedi de publier l'accord qu'il a signé avec Kabila pour s'affranchir de sa tutelle. Il a par ailleurs annoncé des actions de grande envergure au pays comme à l'extérieur à partir du mois prochain pour obtenir le départ sans prendre les armes du régime actuel, évoquant les exemples du Soudan et de l'Algérie. Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC de Jean-Pierre Bemba et coordonnateur de Lamuka à Kinshasa, salue la mobilisation populaire autour de Martin Fayulu et confirme le début imminent des actions d'envergure de sa plateforme sur le terrain.
Est-ce qu'on négocie avec la vérité? Est-ce qu'on construit un pays sur base de mensonges? On a trop parlé, mais peut-être pas.
Pour Madame Chantal Loboni, militante venue assister au meeting, seules les actions que va mener la Lamuka contre la coalition Kabila Tshisekedi assureront un meilleur avenir à l'opposition.
Le président élu, Martin Fayulu Madidi, vient d'une tournée euro-américaine. Ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'est pas dans le pays. Il a le devoir de restituer au peuple congolais comment a été sa tournée. En plus de cela, vous savez que désormais, la plateforme Lamuka devient une plateforme politique.
Notez pour rappel que la coalition Lamuka s'est muée en plateforme politique à l'issue d'une réunion de 2 jours tenues à Bruxelles les 26 et 27 avril dernier avec une coordination tournante du Présidium. Chacun des leaders la dirigera pendant 3 mois avant de passer la main. Le premier qui a été désigné, c'est Moïse Katumbi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Cameroun, le gouvernement consulte en vue de l'élaboration d'un programme de développement à l'horizon 2035, année à laquelle le pays souhaite devenir un pays émergent. Parlementaires et partenaires techniques et financiers du Cameroun viennent d'apporter leur contribution pour le compte de la phase 2 de cette vision de développement à long terme, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Les sénateurs et députés ont présenté au gouvernement les priorités de l'heure pour doter le Cameroun d'une bonne vision du développement en 2035. Des priorités à implémenter selon les parlementaires dans les 10 régions du pays dès le 1er janvier 2020, date du démarrage de la phase 2 de planification du développement du Cameroun.
Nous voulons la santé, l'éducation, les routes soient uniformes sur tout l'étendue du territoire.
Pierre Mbatou, député du RDPC. Le parti au pouvoir.
Nous voulons industrialiser. Nous ne pouvons pas industrialiser si nous n'avons pas d'électricité.
Selon le chronogramme du gouvernement, ces priorités doivent être atteintes entre janvier 2020 et décembre 2027 pour faire accéder le Cameroun au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Une projection de développement économique sur laquelle le député Joshua Oshi du SDF, un parti de l'opposition, émet quelques réserves.
Il faudrait voir comment est-ce que on peut réfléchir à faire en sorte que la deuxième phase, qu'on peut doubler d'efforts ou tripler d'efforts pour pouvoir rattraper le retard.
C'est en 2010 que la phase 1 de la vision de développement pour l'émergence du Cameroun en 2035 a débuté. Elle s'achève le 31 décembre prochain. Cette phase a visé sur 2 objectifs, la modernisation de l'économie et l'accélération de la croissance. Jean-Louis Mama, sénateur du RDPC.
Nos populations ressentent dans leur vie des changements plutôt très positifs en ce moment. Nous pourrons parler de cette croissance.
Le taux de croissance du Cameroun est de 3,9% en 2018. Le taux de chômage est à moins de 7% et l'inflation maintenue en dessous de 2%. Le tout dans un contexte de crise sociopolitique et économique dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Un tableau qui, selon les partenaires techniques et financiers du pays, démontre que de nombreux défis restent à relever au cours des 7 prochaines années.
Le grand défi de cette prochaine phase, c'est d'assurer une croissance qui symbolise quelque chose qui est senti par tous.
Alegria Maria Baouchi, coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun.
On a parlé évidemment de jeunes et de femmes. Comment impliquer la majorité de la population du Cameroun?
C'est le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui coordonne ces consultations en vue d'élaborer la vision du développement du Cameroun en 2035. Alamine Ousmane Mé, ministre de tutelle.
L'approche contributive, participative, inclusive est une approche qui a le plus de chances de garantir l'appropriation des acteurs à la base, l'appropriation des intervenants dans l'appareil institutionnel pour la mise en œuvre des politiques. Nous aboutirons à un document qui rencontrera la satisfaction des populations à la base.
Les prochaines consultations nationales vont concerner le monde scientifique, professionnel et le secteur privé. Yaoundé, Emmanuel Zunta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Fin hier, à Abidjan, de la 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Un festival organisé par le groupe musical Magic System qui a vu la participation d'une dizaine d'artistes, dont le Nigérian Femi Kuti, la Malienne Oumou Sangaré, ou le rapport franco-ivoirien Caris. Georges Ibrahim Tunkara nous replonge dans l'ambiance de ce festival.
Il était sans doute le plus attendu à ce 12e FEMUA, le rappeur franco-ivoirien Caris. Il est venu et il a gratifié le public abidjanais d'un magnifique spectacle.
Le FEMUA, c'est magnifique, c'est génial. Ça a été fait pour une bonne cause. Ouais, moi je suis né à Gagnoa et aujourd'hui je suis là, donc tout est possible.
Également très attendu, la star nigériane de l'afrobeat, Femi Kuti.
Je pense que c'est un très bon festival. On a besoin de plus de festivals de ce genre où les gens peuvent venir passer d'agréables moments.
ensuite aller à la maison et dormir tranquillement, faire de l'Afrique un endroit où il fait bon vivre.
Femi Kuti ne s'est pas contenté de chanter. Il a aussi livré un message à la jeunesse africaine ainsi qu'aux dirigeants du continent.
Tout le monde pense à la grandeur de l'Amérique et de l'Europe. Personne ne pense à celle de l'Afrique. En France, vous pouvez prendre le train et aller partout en Europe avec le TGV, le train à grande vitesse. Pour moi, je ne pourrais pas, comme en France, prendre le train ici en Côte d'Ivoire pour aller au Nigeria, par exemple. Si nous, Africains, nous ne construisons pas l'Afrique pour les générations futures, il ne restera plus rien en Afrique.
Maria Bissongo, artiste burkinabé, très émue d'avoir pris part à ce FEMUA.
J'ai jamais ressenti une telle joie en moi. Je suis très heureuse et je dis merci, merci à ces organisateurs du FEMUA 12.
Genre et développement, c'est le thème qui était au centre de ce 12e festival. Pour l'Ivoirienne José, les femmes doivent continuer à se battre pour être autonomes.
Que les femmes se prennent en charge, que les femmes s'autonomisent davantage, qu'elles soient beaucoup plus actives et qu'elles n'aiment pas la facilité.
Sur le choix de ce thème, les explications du commissaire général du FEMUA à Salfo.
Si le genre est équilibré, le développement est là. Parce que qui parle de genre parle de parité entre hommes et femmes. C'était tout à fait normal que nous mettions l'accent dessus pour qu'on sache que la femme peut jouer un rôle important dans le développement du continent et puis donner la place à la femme parce qu'il ne faut pas la chosifier pour dire que la femme, c'est celle qui doit être à la cuisine ou c'est celle qui doit aller au marché à tout moment. Non, la femme a autre rôle à jouer que ça dans la société.
Une présence fort applaudi à l'apothéose de ce festival, celle de l'ancien international ivoirien de football, Didier Drogba.
J'ai vu des artistes que je n'avais jamais vus, même en Europe ou sur le continent américain. Donc on a la chance d'avoir ces artistes-là ici. Donc il faut en profiter et puis se prendre du plaisir ici.
Femi Kuti, Karis, Oumou Sangaré, Estra Musica, Maria Bissongo, José, de quoi permettre au public de passer d'agréables moments.
C'était super, on appréciait, c'était bien, c'était joli à voir quoi.
Des incidents entre forces de l'ordre et une dizaine de jeunes surexcités ont quelque peu terni cette fin de festival. Georges Bantoukara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Autre festival, la 27e édition du Festival de Jazz de Ouagadougou qui a lieu depuis ce week-end dans la capitale burkinabé. 36 groupes participent à l'événement. Reportage de notre correspondant sur place, Lamine Traoré.
Après l'ouverture vendredi, place au spectacle de Jazz à Ouaga. Ce samedi soir-là, deux géants groupes sont sur scène, de Bademba du Burkina et Mamar Kassé du Niger. Le premier groupe fonde sa musique sur son nombre impressionnant de guitares. Sept guitaristes sur scène, des virtuoses. Le groupe nigérien Mamar Kassé, lui, tire sa musique dans les profondeurs du terroir Peul.
C'est formidable, c'était ma première fois de venir, découvrir, c'est ma curiosité, mais j'ai trouvé que c'était génial.
Raïssa Nana, une mélomane, est venue suivre le spectacle.
C'est le ménage de nos instruments traditionnels, ménagé avec la guitare, et donc je trouve que c'est notre musique.
Si on dit jazz, il y a tout dans le jazz.
Abdoulaye Traoré est le leader du groupe burkinabé, du Bademba.
La musique africaine a beaucoup voyagé dans le monde. Quand je voyage, n'importe quel groupe qui m'invite, je peux jouer dedans. C'est grâce à la musique africaine. C'est une grande école.
C'est sans conteste. Le jazz a une influence africaine.
Le blues et le jazz, ça vient d'Afrique. Parce que c'est des esclaves qui ont amené là-bas.
Moumouni Yacoub est le leader vocal de Mamar Kassé du Niger.
Ils ont fait leur manière parce qu'ils les ont imposé certaines choses. Mais même que tu es esclave, ce qui est dans ton sang, où quelqu'un ne peut pas l'enlever. Ça reste pour toujours. Aujourd'hui, tous les grands musiciens, c'est des Noirs américains. Parce que l'Afrique répond dans leur sang et dans leur veine.
Au regard de la situation sécuritaire précaire, les violences communautaires, les organisateurs de Jazz à Ouaga ont décidé de prôner cette année le vivre ensemble.
Nous vivons des moments assez terribles. On sait que la musique est thérapeutique.
Abdoulaye Diallo est le coordonnateur de Jazz à Ouaga.
La musique aide à sortir de cette situation difficile. Le rapprochement des populations aide le rapprochement de toutes les générations. émotions. Donc on a estimé que c'était bien qu'on affirme cela. C'est nous qui faisons la normalité aujourd'hui. Dans la situation difficile sécuritaire que nous vivons, c'est ces événements culturels qui font que les choses ont l'air normales. La musique, on sait, c'est un facteur de cohésion et de vivre ensemble.
Et en dépit de ce contexte sécuritaire, le programme de Jazz à Ouaga n'a pas été réduit. 9 soirées, 36 groupes, dont 15 de niveau international, et un village du festival sont entre autres les articulations de la présente édition, qui s'achève le 4 mai prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.